13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et jusqu'à 16h et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma charmante et camarade Ombline. Bonjour ma chère.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu nous intéresse. Après plusieurs années de relations, il n'est pas toujours facile pour un couple de rester sur la même longueur d'onde après 10, 20 ou 30 ans. Parfois c'est la routine qui s'installe. On se consacre au travail, aux enfants, et la flamme des débuts s'éteint peu à peu, prise dans le tourbillon du quotidien. Si certains redoublent d'idées pour que le désir ne s'essouffle jamais, d'autres, en proie au doute, se battent pour le raviver et trouver de l'aide auprès de spécialistes. Alors, comment maintenir la flamme et retrouver les premiers émois? Quel est le secret de la longévité? L'amour unique est-il toujours une norme? Couple, comment entretenir la flamme? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Oui, on vous écoute comme chaque jour au standard Europe 1, 39 21 50 centimes la minute. Pour nous écrire, vous pouvez nous envoyer un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
On s'est rencontrés un beau soir d'été. On a fait l'amour un beau jour aussi. On ne s'est plus quitté, on ne sait plus pourquoi, mais ça a duré des mois et des mois, voire des années.
Ça a duré des mois, des années, chante Anaïs. Quels sont les secrets d'un couple qui dure? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Véronique sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Véronique?
J'ai 45 ans et je vous appelle du département de la Nièvre.
D'accord. Alors, vous, Véronique, vous êtes en couple avec votre mari depuis plus de 22 ans. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux?
On s'est rencontrés lors d'une soirée, de manière tout à fait impromptue, comme toute rencontre, dans un bar. Hein, on n'a pas été présentés l'un à l'autre.
Mm-hmm. Voilà. Et vous avez vécu une sorte de coup de foudre ou est-ce que tout cela s'est fait progressivement?
Ça s'est fait progressivement en fait. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes appréciés. Je crois que nous avons été utiles l'un à l'autre, d'abord. Et c'est ensuite que cette histoire s'est transformée en amour.
Oui, parce qu'à l'époque, vous aviez 23 ans et vous dites que la construction d'un foyer n'était pas du tout dans vos priorités. Pourtant, cette rencontre vous a vite donné l'envie. Comment l'expliquez-vous?
Ah ça, j'ai du mal à l'expliquer en fait. Toujours est-il que peut-être avec le recul, je parlerai de lâcher prise, c'est-à-dire que nous n'avions rien projeté, pas d'envie particulière. Nous nous sommes rencontrés, nous ne savons pas du tout ce qu'allait donner notre histoire.
Ouais.
Et je crois qu'on a vécu au jour le jour en fait, sans trop savoir. On s'est laissé aller sur nos envies.
Oui, voilà. Mais vous parlez d'une sorte de magie qui s'est produite entre vous. Qu'entendez-vous par là?
Alors, la magie dont je parle, en fait, s'exprime surtout dans le cadre du cheminement commun. C'est-à-dire que très rapidement, nous avons éprouvé des envies communes, comme l'envie d'avoir un enfant, de bâtir un foyer, bien que nous ayons chacun nos expériences de vie, nos bagages et puis nos difficultés affectives aussi, de part et d'autre, bien sûr.
Alors, vous avez dit à l'une de mes collaboratrices, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Votre mari a 13 ans de plus que vous. Vous dites qu'il a pu vivre des histoires d'amour légères avant vous. Et c'est quelque chose qui a joué dans la longévité de votre histoire?
Juste pour revenir sur la terminologie, pas légère, je pense plus passionnée. Et je pense que le terme est important.
D'accord.
Justement parce que je crois qu'il y a des histoires, on peut vivre des histoires passionnées, mais qui ne vont peut-être pas, alors je vais peut-être me faire des ennemis, qui ne vont peut-être pas dans le sens de la construction du foyer. Voilà, c'est en ça que je pensais. Effectivement, nous avons eu des histoires importantes de chacun de notre côté avant de nous rencontrer, même si nous avions une différence d'âge. Et cela a joué très certainement sur le fait qu'on n'était plus posé dans notre relation.
Ce que vous entendez par là, c'est que vous avez l'un et l'autre vécu des histoires d'amour peut-être passionnelles et donc fortes sur un court terme, mais qu'elles ne vous engageaient pas à vous projeter plus loin, en tout cas.
Voilà, tout à fait.
Cela fait donc 22 ans que vous êtes ensemble, vous avez eu 3 enfants. Il y a eu des hauts et des bas dans votre relation ?
Bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie de couple encore moins. Oui, bien sûr, des hauts et des bas, comme tous les couples. L'idée étant de savoir que c'est pas parce qu'on est en difficulté que c'est forcément la fin de l'histoire. Ne pas aller vers la facilité, c'est une remise en question en permanence, en fait, un couple.
Oui, vous dites que vous étiez dans la gestion des conflits. Comment est-ce que vous gériez les conflits ?
Eh bien, quand on s'aime et qu'on ressent cet amour pour l'autre, le conflit, il est quand même moins important. Je veux dire, ça le remet à sa place. Effectivement, on peut avoir des divergences, et nous en avons eu, surtout à propos de l'éducation des enfants.
Oui.
Il y a un moment donné où on se pose la question de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important ? Voilà, il y a une difficulté, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, on en fait une opportunité, alors une opportunité de grandir dans notre couple, dans notre histoire.
En tout cas, lorsqu'il y a de l'amour, comme vous l'évoquez, on entend qu'il y a sûrement des solutions. Vous restez en ligne avec nous, Véronique. Nous allons continuer à parler des secrets de la longévité de votre couple.
Europe 1.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours ensemble ? Vous êtes en couple depuis de nombreuses années. Comment arrivez-vous à entretenir la flamme ? Vous nous racontez au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Ça doit être la 700 000e fois que je te vois t'habiller, choisir cette culotte ou celle-là, que je te vois t'abîmer. On n'a pas vraiment vieilli parce qu'on se sent capable de tout encore, mais on a gagné quelques plis sur le corps.
Ben Mazuet qui regarde sa compagne s'habiller un nombre incalculable de fois, comme la première fois malgré les 10 années et le pli sur le corps. Comment ne pas laisser la routine s'installer ? On continue d'en parler sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et c'est le 39-21 pour venir nous raconter.
Nous sommes toujours avec Véronique qui nous expliquait être depuis 22 ans avec son mari. 3 enfants sont nés de cette union et que bien évidemment il y a eu des hauts et des bas, mais que tant que l'amour et là, ils ont su gérer les conflits, puisque en 22 ans, il y en a eu quelques-uns. Vous arrivez à prendre du temps pour vous, vous retrouver à deux, malgré la vie professionnelle et familiale que vous avez, Véronique ?
Alors, c'est peut-être là où nous avons failli, mais nous avons réussi à ne pas en faire un obstacle sur notre durabilité. On a pris très peu de temps pour nous deux. Je pense que ça viendra peut-être à terme.
Que faites-vous l'un à l'autre ?
On a pris peu de temps. Alors, on est tous les deux en entreprise. Moi, oui. Je suis coach et formatrice et mon mari est photographe.
D'accord. Donc, vous avez un emploi du temps l'un et l'autre quand même chargé.
Oui, tout à fait. On est tous les deux. Moi, je suis profession libérale et mon mari est commerçant.
Rajoutez à cela 3 enfants, 3 jeunes enfants, et je suppose que la vie est bien remplie.
Oui, tout à fait. Mais c'est justement ça, ça fait partie de la vie aussi, c'est savoir garder chacun un épanouissement à côté du couple.
Oui.
C'est ce dont j'ai parlé avec votre collaboratrice, c'est-à-dire que le couple, c'est une cerise sur le gâteau et faire en sorte que rien ne devienne une obligation, ne satisfasse des attentes particulières.
Oui.
L'autre est là, mais il pourrait ne pas l'être.
C'est ce que vous
il faut garder ça à l'esprit. Enfin, je pense que c'est important.
C'est ce que vous entendez justement lorsque vous dites que pour que le couple dure, qu'il faut avant tout apprendre à se satisfaire soi-même.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est fondamental, un épanouissement personnel, avoir son jardin secret, c'est-à-dire ne toujours être en mesure de pouvoir découvrir l'autre,
oui.
Donc d'être soi-même toujours un jardin aussi à parcourir. Et effectivement, ça me semble être indispensable pour la longévité. Et ça permet à chacun d'avoir des choses à se raconter, de ne pas dépendre l'un de l'autre. Et c'est vraiment fondamental. C'est vraiment 1+1. Plus nous, c'est chacun, plus le système.
Et cette satisfaction de soi-même, c'est chacun dans votre travail que visiblement vous le trouvez.
Oui, tout à fait. Dans le travail, dans la façon aussi d'envisager notre relation. C'est-à-dire que nous, on est toujours passé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Et parce que moi, je suis plutôt dans la prévention des conflits. Oui. Donc, effectivement, quand quelque chose ne va pas, on en parle tout de suite. Chacun émet son point de vue. Et puis, de là, on essaie de trouver un compromis quand c'est possible. Ou bien, il y en a un qui tranche. En fait, on discute.
Vous dites que l'amour est une question de don, mais vous dites également qu'il est très important d'accepter le bagage de l'autre, sa culture, ses valeurs. Est-ce que vous entendez par là qu'il faut respecter la temporalité de l'autre, tout ce qu'il peut faire dans une journée, même si on en fait moins ou si on en fait plus ?
Alors effectivement, par rapport à notre durée de vie de couple, vous imaginez bien que les choses ont évolué, elles n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui, surtout avec la présence de 3 enfants, qui sont encore les enfants et les mamans souvent qui s'en occupent. Voilà, c'est vrai que ça peut être une source de conflit, mais toujours, je reviens toujours sur l'idée qu'on en fait un postulat et faire des difficultés une opportunité, c'est-à-dire arriver à en parler. À en parler, à trouver une solution. C'est pas simple, bien sûr, c'est pas simple et ça demande aussi une
capacité.
Une capacité de résilience, mais également aussi une sorte de gestion d'agenda, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il soit possible avec des enfants, quand on a envie de s'en occuper avec une certaine idée d'une éducation aussi, comme nous avons eu mon mari et moi. Il est clair qu'à un moment donné, il y en a un qui se met en retrait par rapport à sa carrière et puis l'autre doit accepter à ce moment-là qu'il y ait un switch un petit peu dans le couple avec une possibilité de rebond. C'est pas facile parce que chacun doit reprendre ses marques au sein du couple, mais tout change et c'est d'accepter le changement de soi et le changement de l'autre.
Aujourd'hui, vous diriez que la flamme des débuts est toujours aussi vive ou qu'elle est différente, qu'elle s'est muée en autre chose, qui est toujours habitée d'amour, mais que d'autres ingrédients sont venus se mêler à cet amour des débuts ?
Je pense que, je ne dirais pas de manière aussi linéaire, je pense que c'est fluctuant. Il y a des périodes où l'amour est plus l'amour charnel, l'amour d'un couple se met un petit peu en berne parce que, parce que la vie, parce que les obligations, parce que les enfants, la fatigue, etc. Et puis, parfois, il y a des occasions où effectivement on arrive à se retrouver. Je crois que ça n'est pas linéaire, je crois que l'amour est multiple. Et quand on arrive à un petit peu se perdre de vue d'une certaine manière, chacun se replie sur ses obligations, ses envies personnelles aussi par rapport à son chemin de vie, on arrive à savoir qu'au loin, il y a une ligne, une espèce de fil rouge où on sait que l'autre est là.
Et où on se retrouvera.
Je pense que l'amour, en fait, le véritable amour, c'est pas celui qui est toujours youpi. C'est celui qui reste quand il n'y a plus rien ou quand on pense qu'effectivement il n'y a plus rien ou qu'on s'est tellement éloigné. On a beau être chacun dans ses pénates, j'allais dire, on sait que l'autre est là et il sera là quoi qu'il se passe. Il y a une espèce de forcément les mots pour le définir. D'ailleurs,
mais vous parliez de magie au début de votre témoignage et j'ai à nouveau envie de vous parler de cette magie qui fera, comme vous nous l'expliquez si joliment, que cette ligne rouge, c'est sur celle-ci que vous vous retrouverez à chaque fois, quoi qu'il arrive, puisque cette flamme est toujours aussi vive aujourd'hui. Merci pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi, Véronique. Dans un instant, nous allons accueillir Marc Beldassen. Il est psychologue, psychanalyste, spécialiste du couple et de la famille. Et il a écrit « L'énergie d'aimer », disponible aux éditions Larousse.
Europe 1. Les mois passent, les années et l'émerveillement des premières fois se dissipent parfois. Comment faire pour ne pas devenir un vieux couple casanier ? On vous écoute sur Europe 1 au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
J'en vois des qui se lancent, des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs, entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer, un peu comme nous qui nous aimons.
Zazie qui voit d'autres couples se lasser, il ferait mieux de s'aimer, chante-t-elle. S'aimer malgré les années qui passent, comme au premier jour, s'offrir des regards et des roses. C'est quoi vos astuces pour faire durer votre couple ? Qu'est-ce qui tue une histoire d'amour ? Vous êtes avec Olivier Delacroix et vous nous racontez au 39-21.
Continuer de s'aimer avec les années qui passent. Nous allons en parler avec Marc Beldassen, psychologue, psychanalyste et auteur de « L'énergie d'aimer » disponible aux éditions Larousse. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Donc, d'abord, pourriez-vous nous expliquer ce qui définit un couple ?
Un couple, c'est être deux, mais ça ne suffit pas. Être en couple, c'est vivre à deux.
Oui.
Et pour vivre à deux, il faut accepter d'entrer dans le monde de l'autre et de s'y installer. Mmh. Et ça, c'est déjà la première étape. Mais bien évidemment, pour être en couple et vivre à deux, l'amour est indispensable.
C'est-à-dire que cette flamme, si elle diminue, voire si elle s'éteint, cela veut dire que le couple, la notion de couple disparaît ?
En tout cas, elle est en péril.
Elle est en péril.
L'amour, quand il est réciproque, parce qu'il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de réciprocité, il est là, il apparaît dès le début, surtout si l'on tombe amoureux, si c'est un coup de foudre.
Oui.
Mais l'amour, quand il s'est installé, en général, il ne disparaît pas.
Mmh.
Il évolue. Il ne se transforme pas en ce qu'on appelle trop souvent la tendresse. L'amour est là, il évolue, mais pour devenir quelque chose parfois de plus puissant.
Mmh.
Mais l'amour sans désir, c'est quelque chose qui également ne peut être si on n'y prend pas soin. Le désir est quelque part la clé de voûte de l'amour.
D'accord.
Même si l'amour peut exister sans désir, il n'en reste pas moins que le désir est ce qui titille l'amour et qu'il est fondamental pour alimenter l'amour.
Vous avez écrit que l'union réussie doit passer par un questionnement renouvelé sur l'autre. Qu'entendez-vous exactement par là ?
Il s'agit en fait de savoir reconnaître qui est l'autre, savoir accepter ses différences,
oui.
Savoir se remettre en cause. Ce sont également des clés pour la réussite d'un couple. C'est-à-dire que si on se contente du savoir, enfin en tout cas de ce que l'on croit savoir sur l'autre, et comme quelque chose d'acquis, alors effectivement, il y manque un ingrédient fondamental qui est celui de s'interroger toujours, de toujours être dans cette curiosité de l'autre.
Mmh.
Toujours. Et même si on peut penser aujourd'hui, et ça l'est depuis longtemps, que les femmes, c'est ce qu'elles réclament énormément, c'est-à-dire d'être entendues, d'être toujours dans le regard de leur homme, il n'en reste pas moins que ça reste valable pour l'homme.
Marc Beldassen, dans votre ouvrage « L'énergie d'aimer », hein, disponible aux éditions Larousse, vous abordez le couple sur bien des dimensions. Mais comment entretenir cette flamme ? Comment, justement, ces couples qui sont ensemble depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, y arrivent-ils ? Y a-t-il une recette ou plusieurs conseils que vous pourriez me donner cet après-midi, nous donner cet après-midi ?
Alors, il n'y a pas de recette à proprement parler, des pistes de réflexion, mais ce qui est à mon sens important, c'est que chacun utilise sa créativité et son désir pour continuer à faire palpiter le couple. Parce que si je dois donner quelques conseils, c'est par exemple d'éviter les rapports de force, surtout les gros rapports de force, parce que même si c'est normal, il peut très vite devenir toxique. Mmh. Ensuite, accepter les différences de l'autre, ce qui est le plus difficile. L'autre, on l'a connu, on l'aime, mais c'est très difficile de ne pas avoir quelqu'un qui soit comme soi. Donc, accepter les différences de l'autre. Également, c'est de toujours entretenir ce désir. Et ce désir, qui est complètement corrélé au manque, fait que l'amour, même s'il est indépendant, l'amour n'est pas le désir, eh bien, ça entretient. Parce que, qu'on le veuille ou non, la sexualité est importante dans un couple.
Oui.
Éviter aussi les plaintes et les reproches. Mmh. Parce que souvent, un couple est envenimé par les plaintes. Et alors, à ce moment-là, c'est ce qu'on pourrait appeler des attaques. Mmh. Couple qui usent le couple.
En fait, dans vos propos, j'entends qu'il faut au mieux se rapprocher d'un juste équilibre et d'un regard qu'on porte sur l'autre égal à celui qu'il porte sur nous-mêmes.
Oui, pourquoi pas, absolument. C'est une façon d'exposer les choses avec laquelle je suis d'accord. Absolument. Et ce que j'ajouterais, c'est effectivement ce regard sur l'autre doit, à mon sens, dépasser ce que l'on peut percevoir des défauts de l'autre. Car quand on aime quelqu'un, on l'aime bien au-delà de ce qu'il nous donne à voir, c'est-à-dire de ses qualités, de ses défauts.
Marc Bellassène, je rappelle que vous êtes psychologue et psychanalyste et auteur de L'énergie d'aimer, disponible aux éditions Larousse. Vous restez bien évidemment avec nous en ligne. Dans quelques instants, nous accueillerons Arthur. Il est depuis 8 ans avec sa conjointe et il va bientôt se marier.
Europe 1.
Quand la routine remplace le romantisme, quelles sont vos clés pour entretenir la flamme de votre couple? Vous nous le dites sur Europe 1 39 21. Le 39-21, le standard d'Europe 1, pour venir nous raconter votre histoire, venir nous dire quel est le secret d'un couple qui dure ensemble depuis des années. On est habitué, voilà tout, diront certains. Et vous, alors, à tout de suite avec Olivier Delacroix et on écoute le groupe Redbone avec Come and Get Your Love. Redbone sur Europe 1 avec Come and Get Your Love. Comment faire durer sa relation de couple après des années de vie commune? Comment faire rimer amour avec toujours? Vous discutez avec Olivier Delacroix au 39-21.
Et nous sommes en ligne avec Arthur. Bonjour Arthur, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Arthur?
Alors, je vous appelle de Paris, j'ai 29 ans.
29 ans. Alors, cela fait 8 ans que vous êtes avec votre conjointe. Vous dites qu'au bout d'un certain temps, aimer la personne ne suffit plus à ce que cela dure. Que voulez-vous dire par là?
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, une relation en amour, ça s'entretient.
Oui.
Et que forcément, passer les premiers mois, en fait, parce que moi, ça fait 8 ans que je suis avec mon ami, mais même dès les premiers mois, en fait, il faut pouvoir se remettre en question et puis pouvoir entretenir en fait cette relation.
Et comment, en fait, comment on entretient cette relation? On a toujours l'image d'un jardin que l'on entretient, que l'on cultive. Est-ce que voilà, il faut être inventif dès les premiers mois pour vous?
C'est un bon exemple, le jardin en question. Moi, je pense que oui, la clé, c'est pouvoir écouter l'autre.
Oui.
Pouvoir, en fait, on a nos envies personnelles, mais aussi, mais comme si on est dans un couple, qu'on n'est pas tout seul, il y a forcément celle des autres, qu'il faut pouvoir prendre en compte. Alors, ça ne veut pas dire, on peut toujours penser à soi, et c'est aussi en étant sincère avec soi-même qu'on arrivera aussi à être avec l'autre et à l'accompagner dans ses propres envies.
Mmh. Mais le couple, c'est aussi des concessions à faire, à accepter que l'autre ne soit pas toujours en phase avec vous, par exemple. Comment est-ce que vous gérez ce type de situation?
Alors, oui, c'est des concessions. Enfin, c'est surtout des rendez-vous qu'il faut arriver à créer, à se faire avec l'autre.
Oui.
Donc, l'amour aide aussi à écouter l'autre. Donc, on a forcément des envies personnelles.
Ces rendez-vous que vous évoquez, c'est être à l'heure à ce rendez-vous, c'est-à-dire accepter l'idée de l'autre qui n'est pas obligatoirement, qui ne correspond pas exactement à la vôtre. C'est ajuster, c'est ça aussi,
c'est
ce type
ça,
de concession.
Voilà, c'est ça. Disons que c'est s'adapter, c'est écouter les propositions de l'autre, de pouvoir... en fait, c'est une question de dosage. En fait.
Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ces 8 années, depuis que vous êtes avec votre compagne, c'est que vous dites que dans un couple, rien n'est acquis, tout est possible, rien n'est gravé dans le marbre. Qu'entendez-vous par là? Et est-ce que, justement, le fait que rien ne soit acquis maintient toujours dans une espèce d'effet de surprise de l'autre qui, voilà, vous comprenez oui. Cet effet d'attente et que l'autre nous surprenne en permanence?
Alors, il ne faut pas forcément attendre que l'autre nous surprenne. Après, on peut aussi se surprendre soi-même. Quand je dis que rien n'est acquis, c'est vrai. C'est qu'il ne faut pas voir les choses en disant « bah ça y est, je suis avec quelqu'un, donc forcément, ça va rester comme ça, ça ne va pas bouger ». Non, en fait, faut être en perpétuel état de se dire « qu'est-ce que j'ai besoin, comment je pourrais aussi faire plaisir à l'autre,
oui.
continuer à... » Voilà, c'est que c'est un jeu qui se fait à deux aussi.
Comment vous lui faites plaisir à votre conjointe, par exemple?
Ah bah, ça joue forcément par des surprises ou voilà, c'est des petites choses au quotidien, des petites attentions qui font que l'autre va être surpris, mais c'est pas forcément de dire ah bah je vais changer du tout au tout, un jour c'est comme ça, un jour c'est ça,
ouais.
C'est plus ça, quelque chose sur du long terme.
Et le mariage, Arthur, il symbolise quoi pour vous réellement?
Bah moi je suis pas quelqu'un de religieux et pour moi le mariage c'était pas quelque chose de c'est une idée que j'ai eue aussi l'année dernière où je me suis j'avais envie de témoigner ça. C'est plus un témoignage en fait, plus que quelque chose de religieux et de c'est comme ça, c'est la société, on est ensemble depuis longtemps donc on va forcément se marier. Non, c'est en tout cas ça c'est
le mariage c'est quelque chose de très important hein, moi je trouve c'est vraiment une déclaration, une envie, un engagement vraiment sérieux. Enfin, je ne sais pas si vous l'entendez de la même manière, mais c'est un engagement important, synonyme vraiment de on scelle un amour quand on se marie, parce qu'on sait que ça nous unit au-delà de plein de choses.
Exactement, bien sûr. Et c'est vraiment aussi à titre personnel. Pour moi, c'est quelque chose de très personnel aussi, le mariage.
Oui.
C'est forcément quelque chose qu'on célèbre avec les gens et qu'on a envie de ça aussi. C'est un moment qu'on a envie de partager avec ses proches. Mais c'est avant tout pour soi qu'on le... Enfin, moi, je le vois comme ça, quelque chose pour soi-même, pour son propre couple et cette histoire-là, en tout cas. Mmh.
Je me tourne vers vous, Marc Beltacem. Le mariage n'est pas du tout envisagé de la même façon selon les couples hein, que l'on aborde. Pour certains, c'est un engagement important, comme on l'entend pour Arthur. Pour d'autres, c'est synonyme de carcan, de monotonie à venir. Moi, je sais que j'ai plusieurs amis qui ont demandé leur conjointe en mariage. Et bien qu'ils soient encore ensemble aujourd'hui, elles ont refusé parce que voilà, le mariage leur faisait peur, cet engagement-là leur faisait peur. Qu'en pensez-vous?
Alors, il peut effectivement faire peur, ce mariage-là, parce que donc il peut aussi paraître un peu vieillot, dans la mesure où c'est un acte symbolique auquel s'associent beaucoup de représentations,
oui.
notamment religieuses, même si on ne se marie pas religieusement, mais une espèce d'engagement qui fait que le retour en arrière en cas de mésentente, en cas de séparation, est en tout cas perçu comme étant beaucoup plus difficile.
Exactement,
et ce, d'autant plus s'il y a des enfants.
Oui. Et ce mariage, comme l'évoquait Arthur, c'est aussi la célébration de l'amour, mais avec ce qu'on aime, ce qui rend une dimension particulière à cet événement aussi.
Tout à fait, tout à fait. Mais on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il est nécessaire de se marier pour avoir cette célébration? Car l'amour en soi est une célébration et on peut célébrer cet amour avec ce que l'on aime sans se marier. Mais le mariage reste quand même une véritable institution et aujourd'hui, même s'il y a quand même beaucoup de couples qui vivent ensemble non mariés, ça reste quand même quelque chose, une vraie valeur.
Mille merci Arthur pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous allons accueillir Diane. Elle est en couple avec son amour de jeunesse et elle assure que le désir n'a jamais disparu.
Et Lucie, 36 ans, témoigne au 39-21. On a toujours des projets, nous dit Lucie, acheter une maison de campagne, puis la retaper ensemble, programmer un grand voyage loin, ou même créer notre entreprise, vivre une vie professionnelle à deux. Bref, on a toujours des tas de projets en tête et on se projette toujours vers l'avenir.
Europe 1.
Comme Arthur et sa compagne, comme Lucie, vous vous efforcez à ne pas laisser la routine s'installer dans votre couple. On a envie de vous entendre également au 39-21. Comment arrivez-vous à entretenir la flamme? À tout de suite sur Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Parfois pas compliqué, nous dit Rose, s'aimer simplement et le reste suit. Mais avec les années, est-ce que c'est vraiment aussi facile que ça? Comment entretenir la flamme? Comment votre vie amoureuse s'est-elle construite pour durer? Vous échangez au 39-21 avec Olivier Delacroix.
Vous savez, ma chère Ambline, je vais vous faire une confidence. C'est quelque chose qui m'émeut énormément toujours de voir des couples qui sont ensemble depuis 40, 50 ans. Je trouve que c'est, voilà, c'est formidable de pouvoir écrire une vie et être accompagné et avoir une épaule pendant 40 ou 50 ans. C'est tout ce que je vous souhaite, ma chère, et je sais que c'est tout ce que vous me souhaitez.
Exactement.
Et nous accueillons maintenant Diane sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Diane.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Bon, alors du coup, toute la France va connaître mon âge. 37 ans.
37 ans, bah ça va.
C'est le bel âge.
Hein, c'est un âge, vous êtes en pleine puissance de l'âge.
Bah oui.
Et vous nous appelez d'où?
De Clichy-la-Garenne.
D'accord. Alors vous, Diane, vous avez rencontré votre mari lorsque vous étiez en première. C'était votre premier amour ?
Oui, tout à fait.
À l'époque,
c'était un petit peu un hasard, parce que c'est pas vraiment lui qui était dans ma classe, c'était sa sœur qui est arrivée dans ma classe.
Oui.
Alors que normalement, elle n'était pas censée être dans le même établissement scolaire que moi, puisqu'on n'était pas du tout. Il n'y a aucun lien géographique. Et en fait, lui, il venait aussi de s'installer juste dans la ville où j'habitais. Donc, il y avait beaucoup de hasard.
Oui.
Sa sœur me dit, mon frère vient de se séparer de sa petite copine. Puis moi, pour rigoler, je dis, ça m'intéresse. Elle m'a présenté. Et puis, dès que je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre.
Ah oui, ça a été le coup de foudre immédiat.
Pour moi, peut-être pas pour lui. Enfin, pour lui, je ne l'y ai plus. Mais bon, ce n'était pas forcément de l'amour. Parce qu'il était jeune, il venait de quitter sa petite copine. Donc, je ne pense pas qu'il avait envie d'une relation sérieuse tout de suite.
Il était jeune, c'est-à-dire il était un petit peu plus vieux que vous ou un petit peu plus jeune?
Lui, il avait 19 ans et moi, j'avais 17.
D'accord. Alors, à l'époque, vous aviez une idée déjà très précise de ce que serait votre famille. Expliquez-moi ça.
Oui, depuis toute petite, je savais précisément que je voulais me marier, que je voulais avoir des enfants, en plus du travail, tout en réussissant à faire tout en même temps. Et je voulais vraiment avoir une stabilité. Après, moi, je vous avoue que je suis fille unique, j'ai pas de frères et sœurs, j'étais pas entourée d'enfants. Donc, créer ma propre famille, c'était quelque chose de primordial.
Mmh. Et ce sont des ambitions que votre mari partageait ?
Alors, lui, justement, dans le sens contraire, il est d'une famille nombreuse. Donc, avoir beaucoup d'enfants, c'était pas forcément sa priorité. Et puis, justement, comme il venait de se séparer, l'idée de se remettre en couple, vivre l'amour, enfin, vivre quelque chose de sérieux, c'était pas non plus forcément son idée.
Bon.
Mais du coup, je l'ai mis dans ma barque et puis je l'ai emmené avec moi.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez su faire les choses pour que ensuite, il monte dans votre barque, comme vous dites, puisque on va dire que vous avez tranché un peu, puisque vous êtes parent de 3 enfants qui sont encore jeunes. Vous arrivez à partager des moments seuls aujourd'hui avec ces 3 enfants ?
Alors moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un papa qui m'aide énormément.
Oui.
Donc, tous les mercredis, il prend les enfants. Donc, ce qui fait que si je veux être un peu libre avec mon mari, on peut se voir, on peut sortir ou on peut avoir un moment de détente en soirée. Après, moi, je ne considère pas les enfants non plus comme une complication dans dans la vie de couple.
Mmh. Que fait votre mari ? Que fait votre mari, en fait ?
Informaticien.
D'accord. Donc, il peut prendre du temps comme ça, quelques plages, pour s'occuper de ses enfants.
Oui, on arrive bien quand même à jongler nos missions.
D'accord. Après plus de 20 ans de relation, votre désir l'un pour l'autre est toujours aussi fort ou est-ce qu'il a évolué, mué, changé ?
En fait, je pense que plus on vieillit, plus on a confiance en nous, plus on est amoureux et je vois en aucun cas un manque de désir de sa part.
Mmh.
Et pourtant, moi personnellement, après 3 enfants et en plus ayant des petits problèmes de thyroïde, En aucun cas, mon mari me fait des reproches. Il est toujours quelqu'un d'agréable et je me sens désirée avec lui.
Mais vous voyez, visiblement, ça se joue ailleurs. Voilà, le nombre d'années, 20 ans déjà de relation, c'est plus dans la tête aussi que les choses semblent se jouer, puisque si je vous disais que vous évoluez dans le même sens tous les deux, que vous avez des envies communes et que c'est cela qui vous a vraiment, qui a maintenu le ciment qui vous tient.
Maintenant on arrive, maintenant on a trouvé une direction commune, on s'entend très bien, on est en harmonie.
D'accord. Le fait de n'avoir connu qu'un seul amour, c'est quelque chose qui a déjà créé des doutes chez vous. Est-ce qu'il vous est arrivé au moins une fois de vous dire, mais finalement, un amour, est-ce que je suis sûre de moi? Est-ce que,
Il n'était pas au tout début, comme je vous expliquais, enfin au tout début, c'est pas les premiers mois, c'est les premières années. Il a pris du temps quand même à se décider sur la stabilité de notre couple. Donc forcément, à ce moment-là, je me suis dit, bah mince, peut-être que je devrais laisser tomber, je devrais trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est plus fiable.
Mais après,
il avait toutes les qualités que je recherchais. Alors, il n'avait pas les défauts que je recherchais, mais il avait toutes les qualités que je recherchais. Donc à partir de là, moi, j'avais foi en lui. Je savais qu'il avait un potentiel pour devenir le mari idéal. Le mien, en tout cas.
Et à partir de là, j'ai envie de vous dire que ça part quand même très, très bien, s'il avait les qualités que vous cherchez.
Oui, tout à fait.
Vous dites qu'il est très important de savoir accepter les défauts et de savoir pardonner. C'est quelque chose que vous avez expérimenté avec votre mari ?
Déjà, comme je vous ai expliqué au début, il n'était pas non plus dans cette optique d'avoir une relation de couple sérieuse. Donc, il sortait quand il voulait, il me disait jamais rien. On n'était pas, il avait une vie libre d'un jeune homme.
Oui.
Ce que maintenant, avec le recul, je peux comprendre. Mmh. Moi, forcément, à 17 ans, j'étais très très amoureuse, donc je ne le voyais que pour moi. Mais finalement, demander à un jeune homme de 17 ans, 20 ans ou même 21 ans d'être sérieux, c'est pas forcément très très facile. Maintenant, moi, je l'ai excusé, j'ai fait preuve de beaucoup de psychologie, et puis il a fait, chaque année, il faisait preuve de plus en plus de maturité.
Mmh. Et puis j'entends que vous l'aimiez tellement, celui-là, c'était lui que vous aviez choisi, et que ces petites erreurs, en plus de jeunesse, puisque comme vous le dites, à cet âge-là, on peut faire quelques erreurs. En tout cas, il vous a choisi autant que vous l'avez choisi, Diane. Merci beaucoup pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous accueillerons Virginie. Pour elle, la clé de la longévité, c'est la confiance.
Europe 1.
Comment faire durer le couple après la passion des premiers instants? On vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute. À tout de suite. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des couples qui durent. Quels sont les ingrédients d'une histoire d'amour épanouie sur la longueur? On continue de vous écouter au 39-21. Mais d'abord, les enfoirés et on trace sur Europe 1. La bande d'artistes solidaires au Resto du Cœur, les enfoirés avec on trace. On parle d'amour sur Europe 1. Comment entretenir la flamme quand on est en couple depuis longtemps? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Virginie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Virginie.
Oui, bonjour. Bonjour à tous,
bonjour.
Merci de m'avoir appelé.
Je vous en prie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Virginie?
Alors, j'ai 45 ans et je viens de New York dans le 79.
D'accord. Alors, vous êtes en couple avec la même personne depuis vos 15 ans.
C'est ça.
Vous n'avez jamais eu l'impression de passer à côté de votre jeunesse?
Ben non, en fait, c'est en fin de compte, dans mon couple, je pense que la routine... C'est ce qui m'a fait, il ne faut pas tomber dans la routine en fait.
Oui.
Je me dis, tout le monde me dit à côté de moi, t'es passé à côté de ta jeunesse. Ben non, pas pour moi. J'ai toujours cette petite flamme en moi pour mon mari qui s'appelle Philippe.
Oui.
Non, j'ai toujours gardé ça depuis mes 15 ans.
Et alors, cette petite flamme dont vous parlez, vous l'avez entretenue, elle s'est entretenue naturellement chez l'un et chez l'autre, ou vous avez fait des choses particulières, ou est-ce que vous avez subi durant... c'est presque 30 ans, ça fait 30 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous avez senti parfois que ça allait moins bien, ou est-ce qu'elle a toujours été là, cette petite flamme?
Non, elle a toujours été là, et même le jour d'aujourd'hui, tout le monde nous dit, vous êtes vraiment un couple témoin, un couple exemplaire. Non, moi, pour moi, j'ai toujours eu cette petite flamme pour mon mari.
Ah, c'est génial.
L'année donc, c'est vrai que ça reste aussi mon mari, mon ami, mon confident. Quand ça va pas, ben, je sais à qui me confier. Mm-hmm. Je sais qu'il va pas juger, il va toujours me conseiller.
Quelle chance.
Ouais,
hein, vous savez la chance que vous avez.
Ah si, si, je sais. Je m'en rends compte tous les jours. Hein, il me le prouve tous les jours. Et puis, non, non.
L'année dernière, vous avez fêté vos 20 ans de mariage. À cette occasion, vos enfants vous ont fait une belle surprise. Racontez-moi.
Donc, en fait, le 11 juillet 1998, je me suis mariée. Donc, l'année dernière, ça faisait 20 ans.
Oui.
Donc, derrière notre dos, ils nous ont préparé un super mariage, un remariage. Ils ont pris ma robe de mariée. Ils l'ont fait refaire parce qu'évidemment, avec les années, j'ai pris un peu de poids.
Oui, bah, ça arrive,
donc,
ça arrive
fait,
à tout le monde.
Par rapport à ma belle-mère.
Oui.
Et ils ont tout fait, que ce soit la déco, le repas, l'extérieur carrément au niveau terrain.
Oui.
Ils ont tout fait à l'intérieur, l'extérieur. Ça a été vraiment une très très grande surprise.
Oui, ça devait être un moment mémorable pour vous.
Oui, hein. J'en suis encore émue en fait. Ouais. Dès que j'en parle, c'est vrai que j'ai des enfants et une belle-fille, super.
Ouais. Quel cadeau. Vous dites qu'il est important de ne pas oublier l'autre une fois que l'on a des enfants. Parce que c'est vrai que des enfants, à l'arrivée d'un enfant, ça bouscule un couple. Expliquez-moi comment vous avez surmonté ça à chaque fois, comment ça s'est passé.
En fait, on était là, l'un et l'autre. Si l'autre était fatigué, l'autre prenait derrière.
Oui.
Et moi, je me dis, c'est pas pour ça. Enfin, j'en vois autour de moi, c'est parce qu'ils ont des enfants, ils veulent plus sortir. Il faut plus qu'ils sortent au restaurant. Il faut plus que. Et en fin de compte, moi, je trouve pas que c'est un frein, les enfants. Au contraire, ils sont là, c'est notre joie, c'est notre raison de vivre.
Oui.
Et on avance petit à petit avec eux et sans eux, même pour les faire garder une fois de temps en temps. Enfin, c'est pas la mort, quoi. Enfin, c'est pas pour ça qu'on est des mauvais parents.
Ouais. Vous n'avez jamais redouté les effets hein, que peut avoir la routine sur le couple.
Non, mais en fin de compte, moi, la routine, enfin, je la construis aussi. Je me maquille, voilà. Je suis toujours bien habillée.
Vous restez belle pour
Philippe. J'essaie de faire plaisir à mon mari, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Je pense que la routine, enfin. J'en vois autour de moi hein, qui dit ben moi j'en peux plus, ça fait 20 ans et mais en fin de compte ben c'est qu'elles font pas attention à elle et on fait aussi attention à son mari. Enfin moi je sais que je lui fais plaisir, je m'apprête bien, enfin même au niveau sous-vêtements, enfin voilà, mais voilà, c'est toujours un petit plus et voilà.
Oui, parce que ça n'est pas tout à fait facile hein, de rester en face après 20 ans de mariage et même 30 ans hein, d'existence ensemble, car chacun peut évoluer différemment avec le temps, hein, pas toujours dans le même sens. Or, vous...
Avec le travail, enfin avec beaucoup de choses, hein, c'est
ouais.
Vrai que... Mais non, franchement, enfin, moi, pour l'instant, enfin, jusqu'à présent, cette flamme est toujours en moi et je l'aime toujours autant, quoi.
Ouais, bah écoutez, c'est encore une fois, c'est génial de vous entendre. On entend cette joie dans votre voix. Marc Bellassène, l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants peut-elle mettre en péril la relation d'un couple ?
Oui, tout à fait. Je vous suis sur ce point. Je voudrais juste dire un tout petit mot pour Virginie. C'est tout à fait merveilleux votre histoire et j'aurai certainement l'occasion de dire d'autres choses parce que vous amenez des points essentiels. C'est pas pour rien que son couple a duré. Voilà. Mais effectivement, l'arrivée d'enfants perturbe, fait partie des turbulences du couple.
Oui.
Et bien souvent, ce qu'il arrive quand il y a des enfants, c'est que le couple est oublié.
Oui. À l'inverse, voilà. Quand les enfants ont grandi, certains couples ont du mal à se retrouver hein, quand les oiseaux prennent leurs envols et quittent la maison. Est-ce que c'est difficile de réapprendre à vivre à deux ?
Je pense que oui. Je pense que oui, dans la mesure où, lorsque les enfants partent, quel qu'ait été le déroulement de la vie de couple avec les enfants, ça crée un vide. Ce qui manque... c'est bien les relations familiales. Alors effectivement, se retrouver à deux, ça peut être compliqué dans la mesure où on ne sait plus bien quoi faire.
Oui, et c'est une période qui, à votre avis, il faut anticiper vraiment ?
Je ne dirais pas qu'il faut anticiper, parce que c'est bien difficile d'anticiper, si ce n'est que d'avoir des activités l'un et l'autre,
oui.
Donc de ne pas s'être oublié soi-même, d'avoir construit son propre épanouissement. C'est une des choses qui me semble fondamentale et que j'explique dans mon livre et que j'ai rencontré souvent dans ma pratique. Donc ne pas s'oublier pour pouvoir continuer à vivre à deux et construire quelque chose à deux qui soit une écriture qui finalement ne s'arrête pas, car la vie en couple est une écriture qui se poursuit si on y fait attention.
Oui, et comme on l'a entendu dans votre témoignage, Virginie, l'écriture de cette vie à deux, même si cela fait déjà 30 ans, eh bien elle s'écrit en faisant toujours attention l'un à l'autre, mais toujours en faisant attention à soi-même pour l'autre. Et pour ça, je vous félicite Virginie et je vous remercie pour votre si beau témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. C'est la fin de cette émission, donc merci aussi à Véronique, à Arthur et à Diane de nous avoir appelés et à Marc Bellassène pour ses éclairages. La vie de couple n'est pas toujours un long fleuve tranquille, elle est faite de joie et de partage, mais aussi de doutes et de remises en question. Si l'on veut que cela dure, l'essentiel est de communiquer, d'exprimer ses besoins, de dissiper les malentendus et de ne pas laisser une situation s'envenimer. Se réserver du temps à deux, se faire des surprises, permet de sortir de la routine et de se retrouver, car au quotidien, on peut vite vivre côte à côte. Si la monotonie s'est installée, que vous rencontrez une baisse de désir, n'hésitez pas à consulter un spécialiste, psychologue ou sexologue sauront vous écouter pour vous aider à raviver la flamme, comme Marc Bellassène peut vous l'expliquer dans son dernier ouvrage. Vous pouvez continuer, bien évidemment, à discuter sur les réseaux sociaux.
Oui, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram, Olivier Delacroix officiel, et retrouvez ce soir Sabine Marin, si vous souhaitez vous confier, continuer de parler d'amour, de votre couple, la libre antenne d'Europe 1, de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble de l'associabilité, qui désigne les personnes inaptes à vivre en société. Alors, si vous êtes asocial suite à un traumatisme ou depuis toujours, si vous avez soigné votre associabilité ou si vous vivez avec une personne asociale, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous serons là pour vous écouter. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier, assistée d'Armel Thiberge à l'éditorial cette semaine. Merci aussi à l'excellent Boris Paczynski à la réalisation et merci à vous, ma chère Ambline, de me porter durant toutes ces semaines. J'ai été ravi de passer cette heure à vos côtés, cette semaine à vos côtés, et puis bien évidemment on se retrouve lundi à 16h, vous allez retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs et on va vivre durant une heure une espèce de déportation spatio-temporelle, mon cher Carl.
Olivier, j'ai un peu peur. Je suis entouré de deux extraterrestres, des êtres vraiment étranges, Igor et Grishka Bogdanov. Si à 17h tu n'as pas de nouvelles de moi, appelle le SAMU.
Direction Mars avec les tontons flingueurs d'aujourd'hui et Carl Zéro. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. À lundi, 15h. Au revoir.